Les Black Locas présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Est-ce que vous savez ce que c'est que le planning familial? Qui sait?
Là-bas, au planning familial, il y a par exemple des femmes enceintes très jeunes, par exemple, qui viennent parler là-bas avec d'autres personnes.
D'accord. Le planning familial, c'est une association de type loi 1901. On va fêter nos 50 ans. Mais il faut dire que cette lutte pour la contraception, pour le droit de choisir, eh ben, ça remonte au siècle dernier. Et il y a des gens qui se sont battus déjà à cette époque-là parce qu'ils en avaient marre de la fatalité de la naissance. Et vous avez fait un peu d'histoire. On vous a parlé un peu du 19e siècle et tout ça.
Peut-être quincaillerie de malheur. On peut trouver dans des utérus.
Parlons plutôt de régulation de la naissance.
Pour nous, la loi de 1920, elle n'a plus aucune raison.
Arrête de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie sa volonté, défends ta chair, défends ton sang, avant la guerre et les tyrans.
En libertaire absolue, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts. Si le néo-malthusianisme a charpenté ma pensée, j'ai bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré.
C'est tellement de
drame. Bonsoir, alors vous êtes dans Rien à signaler sur le 895 de Radio Dio. Et donc ce soir, alors déjà on vient de s'entendre un petit montage avec des extraits du documentaire On les appelait les dames du planning familial. Et on va encore s'écouter d'autres extraits durant l'émission. Parce que ce soir on va vous emmener en voyage dans l'histoire du mouvement français pour le planning familial, le MPF. Et voilà, donc... On s'est intéressé à ce planning, comment il est apparu, comment est apparue cette association. On va voir un peu le contexte politique, les antécédents de son apparition. Et puis comment le mouvement français pour le planning familial, qui a fêté ses 50 ans en 2006, il a été créé, il a évolué, tout ça, tout ça. Donc l'émission d'aujourd'hui, elle va s'inscrire dans une série d'autres émissions qu'on va pendant durant les mois prochains vous proposer sur le thème de l'histoire des luttes sur l'avortement et la contraception. Et donc aujourd'hui, on va voir plus précisément l'histoire du planning qui s'inscrit dans ces luttes féministes, enfin dans les luttes féministes, pour l'accès au droit à l'avortement et à la contraception.
Et, voilà. Et du coup, je vais commencer à vous en parler alors. Et ben donc l'histoire du planning familial, donc Mouvement français pour le planning familial, qui est une association de loi 1920 qui est bien vivante encore aujourd'hui, elle a commencé dans les années 50 dans la tête d'une femme qui s'appelle Marie-Andrée Lagroix Veille-Allée. Donc cette femme, elle était gynécologue, c'était une intellectuelle catholique progressiste et sympathisante communiste un peu aussi. Et cette femme, donc dans sa pratique quotidienne de médecin, elle était confrontée à des femmes qui subissaient les conséquences des grossesses non désirées, les tentatives d'avortement clandestin, qui se finissaient plus ou moins en curetage à vif, en septicémie, très mal réceptionnées par les médecins dans les hôpitaux. Elles étaient confrontées, ces femmes aussi, à des maternités rapprochées qui sont pas très bonnes pour la santé des femmes. Donc voilà. Donc, elle s'indigne un peu de cette situation. Et donc, Marie-Andrée Lagroix Veille-Allée, qui est donc une femme à l'origine du mouvement français pour le planning familial, parce que c'est l'histoire que j'essaye de vous raconter, elle est partie aux États-Unis en voyage un jour. Et là-bas, elle rencontre les promoteurs-promotrices du birth control. Et le birth control, en anglais, ça veut dire contrôle des naissances, donc ou planification des naissances. On emploie les deux indifféremment en français. Et l'idée derrière ça, c'est de décider de ces maternités, décider celles qu'on veut, et pas d'accueillir toutes les grossesses qui viennent au sein d'un couple. Donc, les différents moyens pour appliquer cette idée-là en pratique, c'est des moyens contraceptifs qui sont diffusés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les années 50, en association avec cette idée de contrôler les naissances. Et donc, les moyens à l'époque qui sont disponibles, c'est le diaphragme et les crèmes spermicides, petit à petit. Les premières pilules, elles vont apparaître dans la fin des années 50, milieu des années 50, et la fin des années 50, elles commencent vraiment à être disponibles et à être à peu près fiables et à peu près pas trop dangereuses pour les femmes. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ. Donc le planning familial, le bon français pour planning familial, il démarre dans la tête de cette femme, Marie-Andrée Lagroix-Veillalet, une intellectuelle, gynécologue, donc médecin, d'une famille assez bourgeoise. Mais ce que je voulais quand même dire, faire une petite digression, c'est que l'idée de contrôler les naissances, l'idée du contrôle des naissances, c'est pas nouveau en France. Et on l'a entendu dans le petit extrait tout à l'heure du film. En fait, en France, cette idée-là, elle a été répandue et diffusée d'un point de vue médiatique et public, quand même de façon assez minoritaire, par les néo-malthusiens. Donc les néo-malthusiens, eux, ils développent cette idée de contrôler les naissances et ils essayent de diffuser des moyens contraceptifs.
Alors, c'est d'ailleurs eux qu'on entend en fait dans la chanson là, qu'on s'est entendue au tout début, hein, qui est une espèce de grand moment collectif, c'est un repas quoi. Et c'est les néo-malthusiens, enfin le mouvement en France. Voilà, petite précision.
Ouais, c'est ça. C'est les gens qu'on entendait tout à l'heure dans le petit extrait du film. Et donc ces gens-là, donc qui sont quand même qui sont de milieux anarchistes, libertaires, d'extrême gauche, dans les années 1890 à 1920, ils essayent de diffuser leurs informations par rapport à la contraception, par rapport au contrôle des naissances. Et par exemple, on a deux personnes qu'on entendait dans l'extrait, Jeanne Habert et Eugène, son mari, qui vont ouvrir un centre d'information et de diffusion de contraceptifs dans leur quartier. Ils essayent de toucher plutôt des gens dans leur quartier. Ça reste quand même assez local et pas trop diffusé globalement à grande échelle. Mais c'est quand même quelque chose qui existe en France à la fin du 19e siècle, début du 20e. Donc ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'au 19e siècle et avant, en fait, bon, le code Napoléon, par exemple, au 19e siècle, n'interdit pas l'avortement, il n'interdit pas la contraception. Il n'y a pas du tout de législation par rapport à ça, il y a un vide. Il y a certainement des codes moraux, un interdit par l'Église, etc., mais il n'y a pas du tout de législation. Un tabou, certes, mais voilà. Donc les femmes, en fait, pratiquent l'avortement de tout temps, et au 19e siècle, notamment, elles font comme elles peuvent avec les moyens du bord. Ce que les néo-malthusiens avancent, c'est la contraception, c'est-à-dire c'est plus essayer de se débarrasser d'une grossesse qu'on veut pas, mais plutôt essayer d'anticiper et de pas tomber enceinte. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait en soi. Du coup, ça repose plus que sur les femmes en fait comme responsabilité, parce que du coup, les avortements, les infusions pour faire venir les règles ou les différentes techniques qu'elles pouvaient avoir, c'est les femmes qui en étaient vraiment responsables et qui se débrouillaient, en fait. Voilà. Mais bon, en fait, ce mouvement des néo-malthusiens, il va être réprimé par la loi de 1920, qui vient après la guerre de 14-18, où, on s'en souvient pas, il y a eu une grande hécatombe, beaucoup de morts. Et donc, l'État, à la suite de ça, va prendre des politiques natalistes hyper fortes et hyper répressives contre les femmes, contre l'avortement et contre la contraception, parce que la loi de 1920, qui sera appelée la loi scélérate par les féministes des années 70, va faire de l'avortement un crime, pénalisé de peines de prison assez lourdes, et va aussi pénaliser par des peines de prison la propagande pour l'avortement et la contraception. Donc Eugène Imbert et Jeanne Imbert vont en subir la loi et ils seront emprisonnés.
Voilà. Oui, parce que par propagande, c'est simplement information qu'on entend. C'est même pas le fait simplement de diffuser des idées ou des propositions, enfin des campagnes d'information, c'est déjà une propagande.
Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc voilà.
Tellement de drames conjugaux, de drames individuels chez des femmes qui étaient vraiment très malheureuses à la suite d'avortements provoqués qui les avaient profondément traumatisées. Des ménages très bouleversés par des naissances trop rapprochées, qui atteignaient la vie de la mère, sa santé, du moins, qui atteignaient profondément la vie du ménage.
s'était rabattu sur maternité heureuse, parce que maternité volontaire, c'était trop provocateur pour l'époque. J'étais une jeune femme assez représentative de ma génération. C'est-à-dire qu'à ma génération, on avait en moyenne 3 enfants par femme. Ça veut dire que beaucoup en avaient davantage. Moi, j'en avais 4. J'avais donc à l'époque 30 ans. Nous avons eu des enfants de grand cœur. Mais après, s'est installé ce que je pourrais appeler la misère sexuelle entre des époux qui s'aimaient, mais qui n'osaient plus s'approcher. Les précautions, c'était les hommes qui devaient les prendre. C'est-à-dire qu'ils devaient se retirer, le coït interrompu. Il y en a beaucoup qui n'y parvenaient pas.
Oui, alors là, on vient de s'entendre encore des extraits du documentaire dont on vous a parlé, qui s'appelle « On les appelait les dames du planning ». Donc c'est Marie-Andrée Lagoura-Vaillalet, qu'on a entendu, donc qui est la présidente de Maternité Heureuse, dont tu as parlé tout à l'heure, là, qui a été un peu l'investigatrice là, de ce mouvement-là. Et aussi Evelyne Sulero, qui est la cofondatrice aussi de Maternité Heureuse et qui, du coup, là, témoigne un peu à l'époque de leur motivation. Et voilà, ça nous donne un peu un état d'esprit en entendant leur voix, là. Et donc, je voulais vous citer le documentaire, là, qu'on va vous faire des petits bouts, mettre des petits bouts tout au long de l'émission. Qui est donc un truc qui est édité à ADAF Documentaire. C'est un DVD qu'on a trouvé à la bibliothèque de Tarentaise. Donc quand on l'aura rendu, et ben, vous pourrez aller chercher si ça vous motive. Et il est assez intéressant. Et donc c'est un DVD qui a été fait par Marie-Monique Robin, qui s'appelle donc On les appelait les dames du planning. Voilà.
Voilà, et donc moi ce que je voulais aussi revenir sur le petit extrait, c'est qu'il resitue bien un petit peu ce contexte en fait. À partir des années 20, une grande répression s'instaure, un ordre moral, religieux et d'État s'instaure sur le corps des femmes. Les femmes, leur vocation c'est d'être mère. Et d'ailleurs cette loi elle sera aggravée sous le gouvernement de Pétain à Vichy. En 1943, et l'avortement devient un crime contre la sûreté de l'État, et il est passible de la peine de mort. Voilà. Et donc, pour en revenir un petit peu à l'histoire du mouvement français pour le planning familial, ou planning familial, comme on l'appelle plus communément, donc son apparition, il est fondé en 1956, donc par Marie-Andrée Lagoura-Vaillalet, qu'on a entendu parler plusieurs fois dans les extraits, et dont je parlais tout à l'heure. Cette femme, héritière du néo-malthusianisme, stimulée par les promoteurs et les promotrices du contrôle des naissances ou birth control qui est dans les années 50 très répandu au Royaume-Uni et aux États-Unis et soutenue par une trentaine de femmes, va déposer en préfecture les statuts de l'association loi 1901 qui s'appelle Maternité Heureuse et qui est donc l'ancêtre ou le début du mouvement français pour le planning familial. Donc comme le dit Evelyne Sulero, le nom il a été choisi pour pas faire peur parce que voilà, je vous ai rappelé le contexte, hein, il fallait quand même qu'on les suspecte pas trop d'être des révolutionnaires. Donc leur objectif c'est de réformer l'article 3 et 4 de la loi de 1920 qui interdisent la diffusion et l'information propagande sur les moyens contraceptifs. Et leur objectif dans leur association, c'est de promouvoir la contraception pour l'harmonie de la famille, la dignité et la santé des femmes. Donc elles ne remettent pas du tout en cause la vocation maternelle des femmes, ni la division des rôles au sein de la famille entre hommes et femmes. Voilà. Elles sont également, d'un point de vue moral, opposées à l'avortement. Maternité Heureuse, c'est une association de loi 1901 dont le CA est composé d'environ d'une trentaine de femmes qui ont été sélectionnées de façon très stratégique d'un point de vue médiatique. C'est des personnes de bonne moralité, ressortantes de familles bourgeoises, qui vont pas être suspectes d'on ne sait pas quoi. Et il y a aussi quelque chose que Marie-Andrée Lagoura-Vaillalet était très attachée à ça, c'était de faire de son CA un CA laïque. Donc il y a autant de ressortissantes de confession juive, catholique et protestante, et des personnes proches des francs-maçons. Voilà, donc c'était quelque chose d'important. Et d'ailleurs, dans les bouquins que j'ai potassés pour vous raconter cette histoire, il y a des chercheuses qui pensent que le mouvement français pour le planning familial, dès ce début de son histoire, est un élément laïcisateur dans la société française, un élément de la déchristianisation de la société française. Ça, je trouve ça intéressant de le dire, parce que finalement, je crois, avant de lire ces bouquins, moi, j'avais pas pensé ça comme ça. Voilà, donc l'objectif de Maternité Heureuse, de Marie-Andrée Lagroux à Veillalet, de Évelyne Soulereau et de toutes ces femmes qui sont au CA, parce qu'il n'y a que des femmes au CA, il faut quand même le savoir, c'est de mettre sur la place publique la notion de planification des naissances, la notion de birth control ou contrôle des naissances. En cela, elles utilisent les médias alliés, comme le Nouvel Observateur, Libération, l'Express, qui sont des journaux qui sont créés à peu près à cette époque-là, ou des relais intellectuels et culturels comme Simone de Beauvoir. Une philosophe qui a écrit en 1949 Le Deuxième Sexe, ou Françoise Giraud, qui est une des fondatrices de l'Express. Voilà. Donc elles font des conférences un peu partout en France, des débats, elles animent des débats. Elles essayent donc de mettre ce thème-là sur la place publique, dans les médias, dans les familles françaises. Elles rencontrent énormément d'hostilité, autant des représentants de l'Église que par exemple de certains partis, comme le Parti communiste français, qui pour lui, en fait, l'idée de contrôle des naissances, c'est l'idée d'empêcher les femmes, sous la contrainte, d'avoir les enfants qu'elles veulent, et notamment en fait de vouloir contraindre les maternités volontaires des prolétaires. Voilà, donc ils ne sont pas du tout intéressés par le contrôle des naissances. Et je voulais aussi dire que donc Marie-Andrée Lagroux à Veillalet, et toutes ces femmes donc sont pour l'émancipation des femmes, mais elles sont pas féministes. En tout cas, elles se revendiquent pas du tout comme féministes. Et il faut aussi peut-être resituer dans le contexte de l'époque, parce que donc la première vague du féminisme, c'est plutôt dans les débuts du XXe siècle. Et ces femmes, en fait, donc il y a quand même un grand tabou sur la sexualité à cette époque-là. Donc en fait, elles sont assez peu touchées, les féministes de la première vague, par le contrôle des naissances et tout ce qui touche à la sexualité des femmes. Leur combat, c'est plutôt un combat pour les droits civiques, les droits sociaux et juridiques des femmes, un combat sérieux. Et elles utilisent beaucoup la maternité, enfin la valeur que va conférer la maternité aux femmes, pour appuyer leurs revendications. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a, voilà, dans les années 50, c'est un peu le creux de la vague pour les féministes, et le contrôle des naissances, ça les intéresse pas trop. Il y a quelques exceptions, et il y en a une que moi j'aime bien, c'est une personne très proche des mouvements néo-malthusiens dont je parlais tout à l'heure, Madeleine Pelletier, qui était également féministe et qui a un parcours vraiment atypique, qui est devenue médecin alors que son origine sociale n'aurait pas du tout prédit pour l'époque, et qui elle avait un discours en faveur de la contraception et de l'avortement très très fort. Voilà, mais c'est une des rares féministes à avoir ce genre de discours là pour l'époque. Voilà, donc pour résumer, Maternité Heureuse, l'ancêtre du planning familial, est fondée en 1956 par une trentaine de personnes sous la direction de Marie Lagroix Veillant-Allais.
Je trouvais l'attitude du parti d'une hypocrisie totale. Marie-Andrée Lagroix Veillant-Allais me dit un jour, il faut obtenir le soutien des communistes. Est-ce que vous pouvez arranger une entrevue avec Jeannette Vermeer ? Je lui ai dit oui, je crois que c'est possible. Lagroix a très bien plaidé la cause avec les gens qui vivaient à 8 dans une demi-pièce. Enfin, elle avait vraiment tous les arguments et elle n'a pas pu les brûler.
Le birth control, c'est exactement le néo-malthusianisme. C'est exactement ce qu'avait préconisé Malthus. Le birth control n'est pas une revendication démocratique. Il est une revendication réactionnaire.
Jeannette Vermeersch a dit, on veut empêcher les prolétaires d'avoir les enfants qu'ils désirent pour affaiblir la classe ouvrière. Je crois que c'était une attitude politique, parce que le rapport Pouchef les dérangeait énormément.
Nous n'étions pas très chaudes, Marie-Andrée et moi, pour l'avortement, que nous considérions comme l'échec de la contraception. Marie-André avait une formule qu'elle répandait partout. Elle disait la loi de 1920 a cousu dans le même sac le mal et le remède. Le mal, c'était l'avortement, le remède, c'était la contraception.
Et vous risquiez vraiment quelque chose ?
Ah, écoutez, d'abord, on risquait d'être interdite, tout à fait, interdite de publication, etc. Mais n'oubliez pas que Mme Bellalet était suspendue de l'Ordre des médecins pendant 3 mois pour publicité personnelle.
Consacrons ce soir une émission à ce problème dont vous avez tous entendu parler, du contrôle des naissances. Un prêtre d'abord, le père de l'Estapie. Mon père, comment l'Église catholique voit-elle le problème du contrôle des naissances?
L'Église parlera toujours de maîtrise. Elle préférera parler de maîtrise, de conduite, de continence, plutôt que de technique contraceptive ou abortive. Pour quelle raison? Parce que, voyez-vous, quand on compare la maîtrise humaine avec ce que j'appellerais, vous me permettrez le mot, une technique censée opérer automatiquement, l'Église a très peur d'une aliénation.
Qui n'a pas vu cette femme charmante avec son petit carnet à la main et son petit crayon de l'autre en train de se pencher, de calculer les dates? Les calendriers au Gino sont vendus à une très très large échelle. Et alors je pense que si les couples en France sont en proie à l'angoisse, à l'inquiétude que tout le monde sait, c'est parce que ces méthodes sont insuffisantes.
Mon ami Marie-André Lagroix-Bayalet, vous n'avez pas de réseau. Ce sont les francs-maçons qui ont structuré dans l'ensemble de la France les centres de planning familial. Nous avons passé avec nombre d'amis pas loin de 12 ou 13 années tous les week-ends à parcourir la France et partout nous avons créé des centres dits de planning familial dont nous avons assuré le contrôle de telle sorte que nous tenions la machine en main pour qu'il y ait une vision unique sur ce que pouvait la contraception pouvait amener aux Françaises.
Ouais. Du coup, on s'est entendu différentes personnes là. Alors, je vais peut-être vous redire un petit peu. Je vais faire dans l'ordre, on n'a qu'à dire ça. D'abord, alors, on a entendu Dominique Desanti, qui était membre du PCF entre 1943 et 1956, donc le Parti communiste français. Et là, elle témoignait de la confrontation qu'il y a eu entre les communistes et Maternité Heureuse et le planning familial. Et enfin surtout avec Maternité Heureuse et du coup avec cette demande qui a été faite d'essayer de faire des liens quoi. Et donc en même temps c'est intéressant de voir que un gros mouvement, enfin un gros parti comme ça, qui était le Parti communiste français à l'époque, soutenait pas l'idée de contrôle des naissances. Parce qu'il trouvait que c'était craignos comme idée. Et en même temps. Après, on a entendu Evelyne Soulereau, qu'on avait déjà entendu avant, donc qui a fait partie de la création de Maternité Heureuse, qui, elle, témoigne du fait qu'elle ne soutienne pas l'avortement, qu'elles sont pour le contrôle des naissances, mais du coup, elle résume assez bien là, dans ce truc. Je ne sais plus si c'est avant qu'elle le disait, là, mais il y avait le bien et le mal dans la même loi, cette loi de 1920, qui interdisait tout, et du coup, il aurait fallu trancher. Tout ça. Et voilà. Et alors après, on s'est entendu un plateau de télé en 66, où il y avait le prêtre Pierre Simon. C'est pas lui. Non, ça c'est Pierre Simon, c'est un prêtre. C'est le directeur. Donc un prêtre et encore Marie-André Lagoura-Vaillalet. Et du coup, voilà, qui nous donne aussi le ton de l'époque et le style des plateaux télé. Des années 50. Et ensuite témoigne son ami de l'époque, un ami à elle, Pierre Simon, qui lui est directeur du collège médical du mouvement pour le planning familial. Donc ça, c'est plus tard, en fait. Mais tu veux en parler. Et voilà, il explique un peu l'importance qu'a pu être apportée par les francs-maçons pour la mise en place des plannings familiales qu'on tu vas nous raconter. Du coup, voilà, c'est intéressant. Il disait que du coup, Marie, Non. Alors, Marie-Andrée Lagoura-Vaillalet, si elle avait été seule, finalement, face à une histoire de réseau, quoi. Comment un mouvement il se diffuse, bah, c'est bien parce qu'il a des soutiens. Voilà. Du coup, lui, c'est Pierre Simon. Et c'est la musique après ?
Il me semble qu'après, on passe une musique, non ? Ouais ? Hein ?
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on passe ?
Pidgey Harvey, t'avais dit, non ? C'est pas ça ?
Ah oui, c'est Pidgey Harvey, Legs. Ouais. J'avais oublié, excusez-moi.
Vous êtes bien sur Radio Dio, 89.5 FM, et on est en train de vous raconter l'histoire du mouvement français pour le planning familial. J'en étais restée à l'histoire de Maternité Heureuse, qui a été fondée en 1956 par Marie-Andrée Lagroix-Vaillalet et une trentaine de femmes, mais bien sûr soutenue par des médecins. Donc les médecins, progressivement, vont prendre pas mal de pouvoir au sein de cette association. Notamment parce que c'est eux qui amènent les savoirs par rapport aux moyens contraceptifs et aux moyens type, de type pilule ou les moyens avec des hormones, en fait. Voilà, donc c'est petit à petit, ils vont prendre de l'importance. Et c'est un de ces médecins, le docteur Fabre, à Grenoble, qui, avec aussi des nouvelles recrues au sein du mouvement, qui va se trouver en fait assez peu satisfait de l'action et de la portée de Maternité Heureuse. En fait, concrètement et en pratique, à l'échelle de la population française, Maternité Heureuse a peu d'impact, même si effectivement le débat a été mis sur la place publique dans les médias. Il y a des débats qui se font partout en France, à l'occasion de soirées, etc. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Et lui, il choisit la mise en pratique et il choisit du coup l'illégalité, dans le sens où il va s'arranger pour contourner la loi sur les conseils d'un avocat. Il va fonder des centres d'accueil au public. Et comme en fait, c'est la propagande pour les moyens contraceptifs qui est interdite et leur diffusion, mais pas l'information dans le milieu privé, qui c'est pas interdit ça. Donc en fait, dans les centres de planification, si les gens y viennent et qu'ils adhèrent à une association, la rencontre entre le docteur Fabre ou l'hôtesse d'accueil et la personne qui vient, c'est un lien privé. C'est pas du tout sous le coup de la loi. Donc lui, même si c'est un peu risqué quand même, il se dit qu'à cela ne tienne, il ouvre son premier centre à Grenoble en 1961. Alors du coup, il se retrouve à être dissident de l'association Maternité Heureuse Nationale. Marie-Andrée Lagroux Availlalet et la plupart des personnes qui sont plutôt situées à Paris ne sont pas du tout d'accord pour ça et trouvent ça trop, trop risqué. Donc du coup, il est obligé de se démarquer de Maternité Heureuse et de changer un peu le nom. Du coup, il ouvre un centre de planning familial à Grenoble en 1961. Et qu'est-ce qui se passe? Un succès immédiat, une énorme affluence. Plein d'adhérents. Donc en fait, assez vite, Marie-Andrée Lagroux Availlalet se rend à l'évidence, ça marche. Donc à Paris va s'ouvrir assez rapidement un deuxième centre, et, etc. Ça va essaimer en France. Et c'est en fait à ce moment-là que le Maternité Heureuse va changer de nom pour le mouvement français pour le planning familial, qui est toujours son nom aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, je disais que à partir des années 60, les médecins prennent du pouvoir au sein du mouvement, mais c'est pas que négatif. Il y a une part en fait où ils prennent du pouvoir et où finalement ça va être contesté dans les années 70. Mais il y a aussi une chose qu'ils amènent, c'est-à-dire déjà ils amènent la volonté de former leurs confrères au savoir-faire de l'orthogénie, c'est-à-dire de tout ce qui est la fécondité des femmes, etc., comment contrôler les naissances, quels sont les moyens, etc. Et donc, en fait, ils vont, en parallèle des centres de planification, fonder aussi des centres d'orthogénie, en fait, où ils forment leurs confrères aux méthodes, comment poser un diaphragme, etc., qu'est-ce que c'est qu'une crème spermicide, ou comment fonctionne la pilule. Voilà. Ils vont aussi, au sein du mouvement français pour le planning familial, fonder ce qu'ils vont appeler un collège des médecins. Donc le docteur Pierre Simon en faisait partie. Donc ce collège a pour but de la recherche scientifique et documentaire par rapport aux moyens de contraception, etc. Mais pas seulement, en fait. Il a aussi un moyen déontologique et de surveillance un petit peu de qui délivre des moyens contraceptifs et comment, et que ce soit pas un moyen lucratif pour des médecins, par exemple. Et ils affirment, en fait, ces médecins, que les médecins ont un rôle, en fait, dans la régulation de la fécondité des femmes, dans la prescription de contraception. C'est-à-dire que jusque-là, le Conseil de l'Ordre, fondé plutôt dans les années 40 sous le gouvernement de Pétain à Vichy, les médecins étaient contre. Enfin, pour eux, les médecins n'avaient pas du tout de rôle dans la fécondité des femmes ou dans la contraception. C'était quelque chose qui n'était pas du tout de l'ordre du médical. Hein. Mais par contre, ces médecins, en fait, prennent le contre-pied, instaurent un rapport de force et disent « si, c'est le rôle des médecins, il y va de la santé des femmes, de gérer leur fécondité, en fait. » C'est pas un problème autre, c'est un problème médical. Voilà. Donc, le mouvement français pour le planning familial, en ouvrant ses centres de planification, en investissant énormément la place médiatique, va créer un état de fait. La contraception est diffusée, même si c'est de façon un petit peu contournée par rapport à la loi. Ça existe quand même dans des centres. Le nombre d'adhérents est énorme. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus, je crois que c'est 100 000 adhérents en 3 ans. Enfin, c'est vraiment incroyable. Hein. Mais je ne me souviens plus, en fait, je n'ai pas noté le chiffre. Donc, ça montre bien qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin, en fait. Ce serait absurde de continuer de nier qu'il y a un besoin par rapport à ça. Et donc, en fait, ils obtiennent, à force d'être présents médiatiquement, à force de toute cette action de longue haleine, ils obtiennent en 1967 la loi Neuwirth, qui est une loi qui lève l'interdit par rapport à la contraception, c'est-à-dire diffusion de moyens contraceptifs et propagande ou information par rapport à la contraception. Donc Neuwirth, c'est un député maire de Saint-Étienne d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que cette loi s'appelle Neuwirth, c'est le nom d'un député. Donc voilà, donc c'est une loi qui finalement... vu la lutte que le Maternité Heureuse puis le Mouvement Français pour le planning familial ont menée, c'est une loi qui est révolutionnaire parce qu'elle révolutionne quand même un pan de l'histoire française. Elle abroge en quelque sorte les articles 3 et 4 de la loi de 1920. Elle permet qu'on diffuse des moyens contraceptifs et qu'on diffuse l'information par rapport au contrôle des naissances. Mais en fait, elle va être rapidement très vite critiquée parce qu'en fait, déjà, les décrets d'application, ils mettent 4 ans avant d'être publiés. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une partie de l'association qui se dit « c'est pas suffisant, ça va pas ». Notamment les conseillères et les personnes qui accueillent les gens, elles se rendent bien compte que ça va pas. Les gens, en fait, ils ont pas du tout accès aux contraceptifs en vrai dans la vie tous les jours, en fait. C'est pas accessible, c'est trop cher, c'est tout un tas de complications pour y avoir accès. En plus, il n'y a pas du tout de campagne de diffusion médiatique assez forte par rapport à quels sont les moyens exactement, etc., adaptés à chaque personne. Donc, il y a une partie qui se dit « ça ne va pas, ce n'est pas suffisant ». Mais Marie-Andrée Lagroix va y aller, qui, elle, finalement, a mené son combat pour ça. Elle dit « c'est fini, c'est la fin du combat, elle s'en va ». Donc, pour le mouvement, c'est quand même une perte de repères parce que c'était une figure hyper importante du Mouvement Français pour le planning familial. Et donc, en fait, ça va en fait permettre un petit peu... ça va être une des occasions au mouvement de se radicaliser, en fait.
Ouais, et puis, c'est, du coup, c'est ce qu'on va entendre, là, que Simone Yves, qui est la présidente du Mouvement Français pour le planning familial de 73 à 81... c'est un peu ce qu'elle nous raconte, là, qu'on va s'entendre, cette histoire de politisation, du coup, du planning, et puis le problème de l'application de la loi qui permet les contraceptifs, mais du coup, a priori, ils n'y sont pas. Et puis le départ de Marie-Andrée Lagoura-Vaillarlé, culte présidente de Maternité Heureuse.
On ne peut même pas dire qu'en 67, la contraception a été libre en France. Elle n'était plus interdite. En juin 67, Madame Veillet est partie. Ça a été absolument ahurissant. Elle a déclaré devant le Congrès, la contraception, la loi sur la contraception va être votée rapidement. Donc, ce mouvement n'a plus de raison d'être. Et je m'en vais. Ça a été vraiment, je crois qu'il y a eu une demande d'interruption de séance pour essayer de la faire changer d'idée. Le planning se sentait orphelin. Alors, ce qu'il y a, c'est que non seulement la loi a été en effet votée quelques mois après le départ d'Anna Vaillanet, mais ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il n'y a pas eu de décret d'application et il n'y a eu de décret que 5 ans après. Ben, ça nous a permis de nous politiser. Le MLF, avec le côté radical provocant, avait ce grand avantage de libérer la parole complètement. Parce que nous, on était encore trop sages, on était trop corrects. C'était les petites dames du planning.
Donc voilà, donc c'était Simone Yves qui nous racontait un petit peu qu'elle était trop sage et qu'il fallait, qu'il était temps en fait de radicaliser ce mouvement. Donc je récapitule un petit peu, Vous êtes bien sur Radio Duo 89.5 et moi je suis en train de vous parler de l'histoire du planning familial. Et le planning familial, il est né en 1956 et il s'appelait Maternité Heureuse. Il était fondé par Marie-Andrée Lagroix-Veillalet. En 1961 apparaissent des centres de planification, quelque chose d'assez révolutionnaire dans toute la France pour diffuser des moyens contraceptifs. Et là, j'en étais à 1967, adoption d'une loi pour la contraception qui autorise la diffusion des contraceptifs et l'information par rapport à ça, la propagande ou du moins l'information publique. Mais c'est pas suffisant. Pour Marie Lagroix-Veillalet, ça va, elle s'en va, elle. Elle laisse le mouvement un petit peu orphelin, on va dire. Mais ça va être l'occasion de rebondir, comme le disait Simone Yves dans l'extrait, et de radicaliser des positions du mouvement et d'exiger, en fait, non pas seulement la levée de l'interdit, mais des moyens pour diffuser des contraceptifs et pour éviter aux femmes le drame de l'avortement à l'époque, parce qu'il faut bien resituer qu'à l'époque, les conditions sanitaires sont déplorables pour les femmes pour avorter, et elles sont très nombreuses à se retrouver confrontées à cette décision-là, dans de très mauvaises conditions. Voilà. Donc voilà, donc le mouvement français pour le planning familial, à ce moment-là, radicalise ses positions, c'est-à-dire que, alors que jusque-là, il était opposé à l'avortement, qu'il était pour la contraception essentiellement, comme moyen de contrôle des naissances, l'arrivée de personnes plus jeunes et notamment de personnes qui font partie des mouvements sociaux de 68 ou des mouvements autonomes de femmes, des mouvements féministes tels que le mouvement de libération des femmes ou le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception qui apparaissent à peu près à cette époque-là au sein de luttes populaires pour la contraception et l'avortement. Le mouvement français pour le planning familial, voilà, intègre des personnes qui font partie de ces mouvements sociaux-là et il se fait influencer par ces mouvements sociaux. Et du coup, il change de position par rapport à l'avortement et en 1972, il intègre ces luttes populaires pour l'avortement et pour la contraception. Son objectif sera donc, avec ces luttes-là, de lutter pour l'abrogation complète de la loi 1920. En 1973... chose importante, le mouvement français pour le planning familial soutient les pratiques illégales d'avortement clandestin qui sont pratiquées notamment par le mouvement dans le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception OUMLAC, qui sont faites dans de très bonnes conditions sanitaires, là en revanche, parce qu'il y a des méthodes qui ont été importées, notamment du Royaume-Uni, comme la méthode Carman, méthode d'avortement par aspiration, qui est très sécure en fait, quand elle est pratiquée par des personnes qui savent faire. Voilà, donc il intègre ces luttes-là. En parallèle d'intégrer donc la pratique illégale d'avortement, il va aussi soutenir la loi de compromis qui est proposée à l'Assemblée nationale en 1975, qui sera appelée la loi Simone Veil, qui est une loi qui vise à encadrer l'avortement et à l'autoriser, et non pas à abroger la loi de 1920. Donc cette loi, la loi de Simone Veil, est adoptée en 1975, mais alors donc elle sera reconduite en 1979. C'est une loi d'épreuve en 1975, donc les pratiques ne sont pas pénalisées, c'est-à-dire que plus personne va être pénalisé ou emprisonné parce qu'il pratique des avortements. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de moyens pour faire en sorte que les avortements se fassent. En fait, enfin, il n'y a pas de moyens. Cette loi, elle est quand même pas assorti de moyens économiques pour que ça fonctionne et pour que ce soit accessible à tous. En 1979, elle est reconduite et amendée. Donc il y a des obligations de fonder dans les hôpitaux publics des centres d'IVG. Voilà. Donc le mouvement français pour le planning familial, à la fin des années 70 et au début des années 80, sera plus dans une démarche de soutenir l'instauration de la loi, son application, son amélioration, pour faire en sorte qu'il y ait des bonnes conditions d'avortement pour les femmes et donc aussi en parallèle pour que de l'information, des moyens soient aussi mis en place pour que les femmes soient au courant, enfin les femmes et les hommes, mais je crois qu'à l'époque c'était quand même plus le public des femmes qui était visé, soient au courant de ce qu'est la contraception, de comment ça marche, etc. Voilà, donc Donc voilà, pour résumer, à la fin des années 70, le mouvement français pour le planning familial avait radicalisé ses positions. Il s'est introduit dans la lutte pour l'avortement, une lutte qui était une lutte populaire et autonome. Ce rapport de force a permis d'obtenir une loi qui est malheureusement qu'une loi de compromis en 1975 qui n'était pas suffisante pour les militantes, mais rapidement en fait il a fallu abandonner finalement je crois que je suis en train de me perdre un petit peu dans ces explications, mais c'est peut-être pas si important parce que dans le sens où c'est quelque chose sur lequel on voulait revenir dans d'autres émissions, du coup je vais peut-être pas m'étendre, voilà. On écoute. Et je crois qu'on écoute quelque chose, une
oui,
musique. Hein,
tout c'est à ça. Fait, voilà. C'est ça. Lala Bolduc.
Je jongle avec la lune, les papillons miroitent, pourvu que le crapaud croasse jusqu'à l'aube. La rivière murmure, son chuintement ne me lasse, l'ardent du soleil rend mon sang un peu plus chaud. Quelle idée d'y retourner brasser la chaleur un peu plus forte d'un été goudronné. Quelle idée d'y retourner passer mes minutes à calculer l'envers du décor qu'on n'ose plus même regarder. Je jette les minutes au plus profond du gour, espérant que leur chute me libère de cet étau. La rose égoutte lente se parfume à la fraîche du serpolet fleuri que tu cueilleras tantôt. Quelle idée d'y retourner briser tous ces sommeils régulés par le radio réveil. Quelle idée d'y retourner se lever sans avoir sous la main une branche de thym. Sur mon balcon il aura tout cramé.
Sur Radio Duo 89.5 FM et on est en train de vous raconter l'histoire du mouvement français pour le planning familial qu'on appelle communément le planning familial. Donc là on en était dans les années, au début des années 80, donc après l'effervescence des années 70, la lutte pour l'avortement et la contraception, l'obtention d'une loi en 75, une loi de compromis certes, mais bon voilà, le mouvement français pour le planning familial va s'atteler à faire appliquer cette loi, à l'améliorer, voilà. Donc ça, c'est sa lutte pour toutes les années 1980, des années 80 en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est des petits éléments, je ne vais pas trop en dire sur les années 80, mais donc, le mouvement français pour le planning familial se veut un mouvement d'éducation populaire. Il essaye d'intégrer l'école, par exemple, d'essayer de faire des programmes d'éducation sexuelle auprès des enfants, des adolescents. L'arrivée au pouvoir en 1981 de la gauche et de Mitterrand va changer les rapports entre le MFPF et l'État, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a un ministère du droit de la femme qui est créé, qui sera dirigé par Yvette Roudy, et Yvette Roudy va choisir Simone Yves qui est la présidente du planning comme bras droit, comme conseillère en fait, au ministère. Donc c'est assez positif au départ pour le mouvement français pour le planning familial, parce qu'il va obtenir une campagne massive d'information pour la contraception avec des spots à la télévision aux 20h. Il va obtenir très rapidement le remboursement des interruptions volontaires de grossesse, qui sont donc organisées par la loi de 1975. Il va obtenir des subventions comme pas mal d'associations pour l'émancipation des femmes ou pour des associations féministes, alors que ça n'existait pas du tout avant. Et il va obtenir aussi un partenariat avec l'éducation nationale pour faire des programmes d'éducation sexuelle. En revanche, la contrepartie, c'est qu'il y a du coup une forte institutionnalisation de cette association. C'est moins des militants, ou du moins c'est des anciens militants qui sont salariés. Voilà. Et ses rapports avec le pouvoir donnent pas mal de pouvoir au MFPF, mais aussi lui font beaucoup perdre d'autonomie. Donc par exemple, en réaction, le mouvement français pour le planning familial va rejeter la mention d'utilité publique à la fin des années 80, parce que finalement, après une décennie en lien avec le pouvoir de façon très très proche, ce sera trop et ils n'en voudront pas plus. Voilà. Après, ce que je pourrais dire, c'est que le mouvement français pour le planning familial, au-delà de la contraception et de l'accès à l'avortement, va être obligé aussi de diversifier un peu ses terrains de lutte. Par exemple, il va être confronté à l'arrivée du sida en 83-85. Donc du coup, ça va être assez difficile. Il va falloir faire un virage un petit peu dans le discours, parce que jusque-là, bon, c'était un discours très sur la sexualité, sur le désir, etc., dans les programmes d'éducation sexuelle. Donc ils vont être obligés d'intégrer des principes de réduction des risques. C'est une décennie assez difficile par rapport à ça. Voilà. Mais par contre, cette histoire de sida, c'est un petit peu un petit clin d'œil. Ça va. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je pensais, il y avait un truc que tu m'avais raconté que je trouvais assez intéressant sur, là tu as parlé plusieurs fois, ou de l'institutionnalisation ou de mouvement d'éducation populaire, et c'est le changement qui se fait entre des bénévoles qui sont dans un truc de pas être des experts, et qui petit à petit en fait deviennent des salariés... Peut-être t'en parles après, je sais pas.
Mais c'est vrai qu'avant, c'est vrai que pendant toute une période, les personnes qui participaient à Maternité Heureuse ou au MFPF étaient assez contre l'idée d'expertise, de savoir, etc. Et ils étaient pour que tout le monde ait un savoir sur la sexualité, par exemple. Ils voulaient pas en faire ça un savoir-faire ou des savoirs d'experts. Et effectivement, dans les années 80, ça va s'institutionnaliser et il va y avoir des experts, en fait. Et ils vont plus s'appuyer sur des sexologues, des sociologues et des personnes comme ça qu'avant, en fait. Alors qu'avant, c'était pas du tout la démarche. Et effectivement, maintenant, mais après, c'est un petit peu mitigé, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir dans l'histoire, en fait, du MFPF, c'est que c'est tellement varié les personnes qui ont participé à cette histoire. Mmh. C'est tellement multiple, en fait, les personnes qui ont intégré cette association, qu'en fait, c'est assez dynamique et en même temps, il y a pas mal de débats à l'intérieur de cette association.
Oui, parce qu'avec le salariat, justement, il y a une beaucoup plus grande diversité des gens qui rentrent aussi dans l'association. Mmh. Parce qu'avant, c'est un réseau, un milieu, comme on en a parlé, comment ça s'est construit dans l'histoire. Et là, d'un coup, c'est plus forcément les mêmes personnes qui sont
Excuse-moi, je te coupe la parole en plus. Mais au début, par exemple, c'est des femmes mariées souvent qui s'investissent dedans et qui ont du temps parce que finalement, elles ont des moyens alloués par leur mari souvent. Enfin, c'est aussi traditionnel, hein, c'est l'époque qui veut ça. Après, il y a aussi la lutte populaire pour l'avortement qui fait entrer pas mal de gens à ce moment-là. Et après, il y a le salariat qui fait entrer des personnes qui voulaient se confronter à du public, accueillir des gens, etc. Et du coup, ça change pas mal la composition de l'association. Voilà. Donc après, dans les années 90, le planning étend un peu ses chevals de bataille, on va dire aussi, et il fait une grande place à la violence faite aux femmes. Et comme on avait vu un petit peu au début de l'histoire du planning, avec Maternité Heureuse, où la confrontation aux adhérentes, au public, et tout fait qu'on se rend compte que la loi de 1967, elle n'est pas suffisante, que lever l'interdit de la contraception, c'est pas suffisant, il faut plus. Là, c'est pareil, en fait. Confrontés aux adhérentes, aux personnes qui viennent chercher des contraceptifs au planning, en fait, on s'aperçoit que la violence faite aux femmes, elle est énorme, elle est quotidienne. C'est pas anecdotique, en fait. Donc, ils vont aussi pas mal essayer de développer ce côté-là. Donc, faire des groupes de parole, etc. Enfin, donc, c'est quelque chose qui va aussi pas mal briser la loi du silence. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le planning plutôt récemment, et ça, on voulait le développer plus dans une prochaine émission avec une présentation locale du planning de Saint-Étienne et d'Annonay. Donc du coup, je ne vais pas développer plus, voilà. Et ce que je voulais aussi dire, peut-être, c'est que le planning, le mouvement français pour le planning familial a des actions à l'international. Mais en fait, j'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur les 15 pages qui parlaient de ça. Du coup, je vous renverrai au bouquin, parce qu'il est pas mal, ce bouquin, même si des fois, il est un petit peu dur à lire, quand même. Voilà. On passera une musique maintenant,
ouais,
ou tu veux...
Si, on va s'écouter Colette Renard. Alors, c'est une chanson, je ne sais pas quand elle date, mais elle est un peu datée. Enfin, elle est un peu vieille, pas datée, mais c'est un petit peu ancien. C'est une version un peu old school du plaisir qu'elle se donne toute seule dans son lit. Et voilà, elle nous raconte en chanson.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
C'était Colette Renard.
Voilà, et vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 FM, c'est rien à signaler. Donc c'était, voilà, c'est la fin de l'histoire du mouvement français pour le planning familial qu'on a raconté toute cette heure. Je me suis servie pour vous raconter cette histoire d'un bouquin qui s'appelle Liberté, sexualité, féminisme aux éditions de la Découverte. Voilà, mouvement français pour le planning familial. J'ai aussi un petit peu potassé un bouquin qui est « Avorté, histoire des luttes et des conditions d'avortement dans les années 60 ». Non, des années 60 à aujourd'hui aux éditions Time Party du collectif IVP. Voilà, puis il y avait le DVD dont on a parlé tout à l'heure, qui est trouvable à la bibliothèque Tarentaise et qui s'appelle « Les dames du planning ».
Ouais.
Voilà. Et puis, il y a peut-être quelque chose que je voulais raconter, parce qu'il y a un communiqué de presse qui date du 15 octobre du planning familial, qui met en garde contre les restructurations des centres IVG. Donc, j'avais envie de vous en parler. Voilà, ça a l'air sérieux. Il y a des menaces sur les centres IVG qui vont intégrer les services de gynécologie obstétrique. Donc, ils risquent de perdre leur spécificité, et notamment la spécificité que ces centres avaient acquis grâce à la lutte et à la pratique du MLAC. Mouvement Libération pour l'avortement et la contraception dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'était une information intéressante. Et il y a par exemple des mobilisations qui se font à l'hôpital Thénon à Paris. Il y a des occupations qui se font pour dire que ça va pas comme pratique. Voilà.
Voilà. Et du coup, on va vous quitter. On va laisser l'antenne à Boogie
l'émission Boogie. Et on se retrouve d'ici 15 jours. Alors, je sais plus c'est quoi la prochaine, mais en tout cas, comme on vous a annoncé tout à l'heure, il y aura des suites à cette thématique-là qu'on avait des luttes pour le droit à l'avortement et à la contraception. On vous parlera encore d'autres choses et encore des fois du planning. Voilà. Donc, à bientôt.
Au revoir. When I cry.